Le dévoilement de Dieu numéro 132. Les 10 serviteurs et les 10 talents. 22 décembre 2019. Pasteur Brian Kozurek. Maintenant, ce matin nous allons continuer notre étude des paraboles. Et nous allons étudier la parabole découverte dans Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Maintenant, la première chose que nous voulons comprendre, est le but pour lequel Jésus utilise les mots pour un voyage. Il y a 6 endroits dans le Nouveau Testament où Jésus a utilisé l'expression pour un voyage, et les 6 concernent les paraboles relatives au royaume de Dieu. Dans chacune des phrases utilisées, elle montrait que le personnage principal était absent de la scène. Ainsi, nous voyons ici qu'il fait cette illustration pour dire aux apôtres que Néhémie ne sera pas sur scène. La présente. Matthieu 25, 14 et 5 autres. Marc 12, 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, et bâtit une tour, puis la ferma des vignerons, et quitta le pays. Matthieu 21, 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, et bâtit une tour, puis la ferma des vignerons, et quitta le pays. Luc 20, 9. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. Luc 15, 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et dans Luc 19, 11. Nous voyons aussi la même parabole, telle qu'elle nous est donnée dans Matthieu, où nous voyons que cela se rapporte au royaume de Dieu, comme nous lisons dans Luc 19, 11 et 12. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance sans, alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir, ensuite. Ainsi, je veux que vous remarquiez que Jésus parle de cette parabole, parce que les disciples étaient déconnectés, quant à ce qui se passait et ce qui allait arriver. Et il essayait de leur dire qu'il Néhémie serait pas sur scène pendant un moment. En fait, nous l'entendons dire plus loin, « Je m'en vais vous préparer une place, mais là où je suis, vous Néhémie pouvez pas venir maintenant. » C'est Esther dans Jean 14, 2-3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Maintenant, nous Néhémie pouvons pas citer Jean 14, sans rappeler ce que Jésus nous dit ici et pourquoi le leur dit, il ici. Commençons par Jean 14, 1. Que votre cœur Néhémie se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Ainsi, Jésus sait que leurs cœurs sont troublés. Maintenant, souvenez-vous, ils venaient juste d'avoir leur dernier souper ensemble, au chapitre précédent, et il leur a dit que l'un de ceux qui mangeaient avec eux, le trahirait. Ainsi, il dit ici au verset 1 du chapitre 14 Néhémie, « Laissez pas vos cœurs être troublés par ce que je vous ai dit. Si vous croyez en Dieu, alors croyez aussi en moi. » Ensuite, il a commencé à leur dire pourquoi c'était nécessaire pour lui de s'en aller. Il dit au verset 2 « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Ainsi, il leur dit ici pourquoi il doit s'en aller pour une période de temps. Il les prépare pour les événements qui devront s'accomplir les jours suivants. Ils sont en route pour Gethsémané, et il sait qu'il sera pris de force et qu'ils fuiront. Mais qu'après que cela passera, ils se souviendront de ce qu'il leur aurait dit de regarder. Ensuite, il dit, après leur avoir dit qu'il devrait les quitter pour un moment, il dit au verset 3 et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, la raison est que je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Ainsi, il les rassure ici que ses intentions étaient d'être ensemble. Son voyage, Esther de préparer une place pour que tous y habitent. Un royaume. 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Maintenant, c'est Esther ici que le doute Thomas exprime sa peur de se retrouver seul. 5. Il résiste Thomas lui dit, Seigneur, nous n'y savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'y vient au Père que par moi. Et ensuite, Jésus ajoute, 7. Si vous me connaissiez, Ginosco, vous connaîtriez, Ginosco, aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, Ginosco, et vous l'avez vu, Orao. Maintenant, vous connaîtriez tous, Sester, ce que ce mot Ginosco signifie, parce que je l'ai utilisé de centaines de fois, et il signifie de connaître de façon expérimentale. Non pas une connaissance mentale mais une connaissance à travers l'expérience. En d'autres termes, une connaissance basée sur une expérience vivante. Ainsi, Jésus dit, si vous avez passé les 3 ans, cherchant à me connaître à travers toute expérience que nous avions partagée ensemble, vous devriez aussi connaître mon Père par expérience, et alors vous le connaîtrez par expérience, parce que vous l'aurez déjà vu, Orao. Maintenant, s'il parlait simplement de voir Dieu avec nos yeux, il n'aurait pas utilisé le mot Orao ici, parce que ce mot Orao signifie regarder en fixant, dans le but de comparer, observer par expérience dans le but de discerner clairement. En d'autres termes, quand il marchait avec Jésus et observait comment il faisait les choses, et Dieu entrait et accomplissait des faits surnaturels qu'aucun homme n'aimé pouvait faire. S'ils avaient observé ces expériences, alors ils pouvaient voir comment Esther ce que Jésus était soumis au Père, et n'aimé faisait rien, mais ce que le Père lui montrait premièrement de faire. Ainsi, ils ont vu de manière expérimentale comment Dieu faisait les choses, à travers l'office qu'aucun homme n'aimé pouvait faire, et à travers cela, ils ont expérimenté la puissance et la présence de Dieu dans son Fils. Maintenant, Esther cela Jean 14. Jésus leur enseignant que comme vous m'avez observé que vous avez vu comment Dieu vit en moi, vous êtes arrivés à comprendre cette relation spéciale que Dieu a avec son Fils et ses fils. Maintenant, observez comment Philippe a une compréhension troublée à propos, car à ce stade, il avait la doctrine du Père et du Fils bien assimilée, mais Néhémie comprenait pourtant pas que la doctrine indiquait la vie même du Père dans les fils. Et c'est Esther mon objectif, pour ceux qui se sont assis sous le ministère de Frère Bell pendant si longtemps, car comme Thomas, ils comprennent le Père et le Fils, mais faillissant de saisir ce que Jésus a dit ici, qui nous conduit au verset 12. Mais avant que nous arrivions là, voyons comment cela évolue au point où Jésus a parlé clairement au verset 12. Maintenant, Rappelez-vous ici que Philippe reconnaissait Jésus comme étant le Fils de Dieu, mais Néhémie ne saisissait pourtant pas que c'était la vie de Dieu en Jésus qu'il expérimentait tout le long. Après que Jésus a dit que vous m'avez connu à travers les expériences que nous avions partagées, et ainsi vous avez aussi connu le Père à travers les expériences. Mais Philippe Néhémie l'avait pas saisi, il était fixé sur deux seigneurs. Le Père et le Fils. Deux personnes, il avait ses yeux fixés sur le vase et non sur le Dieu qui utilisait le vase. 8 Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Maintenant, s'il était attentif, il aurait compris ce que Jésus leur disait, mais il était tellement concentré sur le vase pour comprendre. Ainsi. 9 Jésus lui dit, n'ai-je pas été pendant longtemps avec vous et pourtant vous Néhémie me connaissez pas, Ginosko, Philippe? N'ai-je pas été pendant longtemps avec vous? Et pourtant vous Néhémie me connaissez pas de manière expérimentale. Philippe? Celui qui m'a vu? Orao? Celui qui a pris son temps pour me contempler dans le but de me comparer avec mon Père. Celui qui m'a observé de manière expérimentale. Comment le Père a opéré à travers ce vase pour discerner clairement, a vu, Orao, le Père? Et comment dites-vous? Montre-nous le Père? Ici, Jésus enseigne Thomas qu'il vient un temps où vous devrez comparer l'expérience avec ce que la parole dit qu'il en sera. Et c'est le problème avec beaucoup des croyants aujourd'hui. Ils ont peur de l'expérience, mais aussi longtemps que l'expérience s'aligne soi-même avec la parole. Alors vous connaîtrez de manière expérimentale la parole. En d'autres termes, si la parole Néhémie peut pas être interprétée correctement jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Est-ce juste? Alors, l'accomplissement de la parole est-ce une expérience? Et sans cette expérience, vous Néhémie pouvez pas prétendre en avoir l'interprétation correcte. Car ce n'est pas expérimenté, mais connu seulement sur le plan mental. Alors on peut remettre en question son authenticité, et si vous en avez la bonne interprétation ou non. Maintenant, c'est là où Jésus avance avec cette conversation, 1-0 Néhémie, crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je Néhémie les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. En d'autres termes, vous m'avez observé pendant ces 3 années passées, et vous savez que je n'ai dit que ce que mon Père m'a ordonné de dire. Et les œuvres que je fais, vous savez alors qu'il faut que ça soit mon Père qui les fasse, car aucun homme Néhémie peut faire ces choses, à moins que Dieu les fasse. Par conséquent, Thomas, si tu m'as connu par expérience et m'as observé, alors à travers ces expériences que tu as eues, tu aurais discerné clairement ma relation avec le Père. Est-elle qu'il agit? Ainsi j'agis. Est-elle qu'il parle? De même je dis ce qu'il me dit de dire. Maintenant, souvenez-vous, il a juste dit que Sester le Père habite en moi. Ainsi, alors il dit, 11 croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père Sester en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Regardez, vous avez vu les œuvres, vous avez vu le surnaturel, et vous l'avez expérimenté tout au long avec moi. Par conséquent, croyez ce que je vous dis, pour la confirmation. Et souvenez-vous que la confirmation, c'est quelque chose que Dieu fait, pour appuyer ce que les fils, soit disent ou font. Ainsi, la confirmation est une expérience, où vous voyez le vase et le Dieu, qui utilise le vase dans une relation harmonieuse. Et ensuite zut. Nous arrivons au verset 12. Oui. Le verset 12 que beaucoup Néhémie semble pas comprendre que c'est pour ceux qui sont remplis de l'esprit. Remarquez, Il continue ici à parler à Thomas. Sester la même conversation où il parle d'expérimenter la puissance et de la présence de la vie Dieu œuvrant dans un vase. 12 En vérité signifie une vérité. Ainsi il parle d'une vérité. D'une vérité, je vous le dis. Celui, le croyant, qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Maintenant, rappelez-vous qu'il nous a dit que nous devons regarder en fixant avec les yeux pour discerner clairement entre Dieu et le vase, et comment Dieu confirme le vase. Et maintenant, il dit, quiconque a l'Esprit de Dieu en lui fera les mêmes œuvres que je fais par son Esprit en moi. C'est-à-dire l'observation d'un discernement correct. Regardez ce qu'il dit ici. Sester celui qui a passé du temps, m'observant dans le but d'établir la comparaison entre moi et mon Père. Celui qui m'a observé de manière expérimentale. Comment le Père a opéré à travers ce vase? Pour discerner clairement. Celui qui croit à ce que le Père a fait à travers moi, fera aussi les mêmes choses que je fais. Ainsi, le discours entier de Jean 14, 12. Provient de la longue discussion qui a eu entre Jésus et Philippe sur comment connaître de manière expérimentale. Quand vous voyez Dieu se mouvant en vous, comme il l'a fait en Jésus. Maintenant, nous vous avons montré beaucoup de fois comment frère Branham rend ceci clair, que le croyant dont Jésus fait mention dans Jean 14, 12, est-ce toute personne remplie du Saint-Esprit. Jésus dit dans Jean 6, car on ne sait en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a fait écho la vie éternelle. Et alors, comment faites-vous l'écho de la vie éternelle? Jean 14, 12. Vous faites ce qu'il a fait, si vous avez le même esprit qu'il avait. Et vous n'êtes pas un croyant, si vous n'y l'avez pas. Car il a dit, celui qui croit en moi, fera écho de la vie éternelle. Et dans sa prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus 12 novembre 1963 38. Frère Branham dit, maintenant, selon les Écritures, nous sommes censés être des épîtres écrites par lui. La Bible dit que nous sommes des épîtres écrites. Et si, ce soir, nous avions faim et soif de voir le Seigneur Jésus-Christ. Nous, en tant que des croyants chrétiens, nous devrions tellement refléter sa vie que nous serions ses parfaits représentants. C'est-à-dire ce que nous devrions être. Chaque chrétien devrait représenter et refléter la vie de Jésus-Christ. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit, Amen. Tirez-en-de-e. Et je crois que chaque chrétien devrait refléter la vie de Christ. Il l'a dit dans Saint Jean 14.12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et nous savons donc que c'est vrai, que nous sommes ses représentants. Et si nous déclarons que Christ vit en nous, et si Christ vit en nous, nous devons alors agir comme Christ a agi. Nous devons refléter sa vie. Christ Esther le mystère de Dieu révélé, 86-1. Et alors la parole se déplace dans le corps, à partir de la tête. Qu'est-ce? Cette même parole. Rien n'est mis peut y être ajouté ou retranché. Ainsi, cette même parole se déplace à partir de la tête, alors que le jour s'approche, descendant dans le corps, confirmant qu'ils sont un. Ils sont mari et femme. Ils sont la chair de sa chair, parole de sa parole, vie de sa vie, esprit de son esprit. Voyez? Amen. Comment le savez-vous? Portant le même témoignage, le même fruit, la même parole, voyez? Manifeste Christ, la même vie, le même Dieu, le même esprit, La même parole. Le même livre. Amen. Les mêmes signes. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Oh Alléluia. Dans sa prédication, nous voudrions voir Jésus 26 février 1957 p. 21. William Branham nous donne la raison pour laquelle Jean 14, 12 Esther pour tous. Et dans quel but? Mais maintenant, pendant qu'il Esther ici opérant avec son Église sous la forme de l'Esprit. Alors, si son Esprit Esther avec nous, il agira exactement comme lui agissait lorsqu'il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même façon, parce que ce n'Esther plus votre esprit, c'Esther son esprit en vous. L'Esprit de Christ en vous. Les choses que je fais. Celui qui croit en moi, Saint Jean 14.12. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous? Nous ferons les mêmes œuvres. Nous aurons les mêmes pensées. Nous mènerons le même genre de vie. Si l'Esprit de Dieu est en vous, il vous fera vivre comme Christ. Vous serez comme Christ. À ce moment-là, vous devenez une épître écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant sa lumière à travers vous. De même que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, et que Christ reflétait Dieu à partir de son propre corps. Aucun homme n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père l'a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qui était l'attitude de Christ, c'était l'attitude de Dieu, parce que les deux œuvraient ensemble, l'esprit et la chair étaient unis. Frère Branham clarifie que Jean 14, 12 Esther pour chaque croyant comme nous le voyons dans questions et réponses 28 juin 1959 S172, 88b. Frère Branham. Esther ce que n'importe qui peut faire les œuvres de Christ, à moins qu'il n'ait mis soit Christ. S'Esther cela, à moins qu'il n'ait mis soit Christ. Certainement. Prenons Saint Jean, juste un instant. Saint Jean le 14e chapitre et je veux que vous regardiez à ceci. Maintenant, si vous pouvez le saisir rapidement. Saint Jean 14, 12. Je crois que s'Esther cela. Nous allons l'aborder rapidement. Et regardez ce que Jésus a dit à ce sujet. Très bien. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais il les fera aussi. Quiconque, l'homme lui-même n'est mis peut-être Christ, mais les œuvres de Christ suivront chaque croyant. Voyez? Il fera les œuvres de Christ dans n'importe qui. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera non pas. Je ferai, il fera. Il fera, non pas. Je, mais celui qui croit en moi et a confessé sa foi en moi et Esther mort en lui-même et que mon esprit habite en lui et qu'il Esther devenu une partie de moi. Maintenant, cela n'est mis fait pas de lui Christ. Cela fait de lui, une partie de Christ avec le reste de l'Église. Très bien. Il n'estère pas Christ, car ce serait anti-Christ, vous voyez. Il serait en train de retrancher de Christ. Mais il peut être, faire les œuvres de Christ, n'importe quel croyant. Très bien. L'agneau et la colombe 25 mars 1957 p. 28. Quelquefois le croyant et l'incroyant adorent par le même esprit, mais le fruit de l'esprit montre ce que vous êtes, non pas la réaction de l'esprit, pas le parler en langue, pas de crier, cela marche de pair aussi, cela marche ensemble. Mais à moins que le fruit de l'esprit n'ait mis rende témoignage à la parole de Dieu, vous n'avez qu'une démonstration extérieure. Et aujourd'hui, nous nous reposons beaucoup sur les émotions extérieures et des démonstrations, alors que cela exige une authentique, pure, nouvelle naissance, une vie conduite par le Saint-Esprit, pour prouver ce que vous êtes. Maintenant, Sester juste, mon frère et ma sœur. À moins qu'il y ait du fruit, et le fruit de l'esprit Néhémie ne sont pas des démonstrations extérieures, Sester une œuvre de grâce interne, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la foi, la douceur, la gentillesse, la patience. Vous y êtes. Maintenant, continuons avec l'explication de Jésus à Thomas. 13:20 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde Néhémie peut recevoir, parce qu'il Néhémie le voit point et Néhémie le connaît point, mais vous, vous le connaissez, vous le ginosco, vous le connaissez par expérience. Comment le connaîtrons-nous par expérience? Car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je Néhémie vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde Néhémie me verra plus, mais vous, vous me verrez. Le mot grec ici, pour voir Esther, théoreo qui signifie, discerner, littéralement, figurativement, expérience ou intensivement, reconnaissance, voici, considérer, regarder sur, percevoir. Ainsi, comment Esther-ce possible? Car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Et ce jour-là, c'est Esther aujourd'hui. Et Jean 14, 12 Esther consciente de cette relation selon laquelle, il est Esther en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la doxa, la même pensée qui était en lui, être en vous. Ainsi, revenons à notre parabole. Nous découvrons ce notable s'en allait au loin pour recevoir pour lui, un autre royaume, et rentrer. Maintenant la seconde chose, je veux que vous puissiez comprendre Esther que dans l'histoire, telle qu'elle Esther nous Esther racontée par Luc, nous voyons que cet homme, Esther un notable, ce qui signifie un seigneur. Et il nous dit que Jésus a raconté cette histoire, parce qu'il croyait que le royaume de Dieu était imminent en leur jour, il pensait que l'histoire allait les aider à comprendre que c'était pour présager le futur. Ainsi, le Seigneur était au loin, ce qui indique qu'une Néhémie rentrerait qu'après un certain temps. Maintenant, ceci nous amène à la pensée suivante, qui est Esther le chiffre de l'homme dans l'histoire. Dans le livre de Matthieu, il nous Esther dit, il a appelé ses propres serviteurs, et leur a remis ses biens. Mais Néhémie nous Esther pas dit, combien étaient concernés. Par une lecture décontractée, vous pourriez penser qu'il n'y avait que trois hommes concernés mais l'histoire, telle que racontée au livre de Luc, nous dit qu'il y a 10 hommes concernés. Et voici votre chiffre 10 encore. Et 10 représente quoi? Un achèvement d'un cycle. Esther ce vrai? Nous avions eu 10 vierges représentant la fin de l'Église, et 10 drachmes représentant la fin de la rédemption et le raffinage par le Saint-Esprit de l'Église. Et maintenant, nous regardons encore à ce chiffre 10 et sa signification d'une fin d'un cycle. Et cette fois, il parle de ces hommes, non pas d'une femme, qui typifierait une église. Mais les hommes typifient un ministère. Luc 19, 13 Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. remarquez qu'il avait été donné à ce 10 hommes une administration sur quelque chose possédant une valeur. Ils étaient 10 qui avaient reçu les 10 mines d'or et d'argent, qui représentaient le taux ou la monnaie en ce jour-là. Remarquez que c'était des hommes et non des femmes dans cette histoire. La semaine dernière, nous avons vu comment l'Église a reçu ses drachmes. Cette semaine, nous voyons comment ces hommes, qui Néhémie représente pas l'Église mais le ministère, car ce sont des administrateurs de ce que le Seigneur leur avait donné. Ainsi, ceci Néhémie parle pas de l'Église. Ce sont des hommes et ainsi ceci parle du ministère. Le 10 représente la fin du cycle du ministère ou des hommes à qui Dieu a confié l'administration, et les 3 hommes distincts nous montrent les 3 types de ministres. Comme nous savons qu'il y a 3 sortes de croyants dans l'Église et ainsi, il y a 3 types de croyants parmi les ministres aussi. Maintenant, tous Néhémie seront pas d'accord avec, mais la Bible montre clairement que la femme représente l'Église, et comme ceci Néhémie parle pas de femme, donc il Néhémie représente pas l'Église. Il parle des hommes comme administrateurs de quelque chose, dont le Seigneur leur en avait confié la charge. 1 Corinthiens 4, 1-2 ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs, administrateurs, des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, ou plein de foi. 1 Pierre 4, 10-11 comme de bons dispensateurs, administrateurs, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, remarquez qu'il n'est mis par le pas de l'administrateur des mystères de Dieu en référence avec la femme. Elle, une femme, représente l'Église, comme nous vous l'avons montré plusieurs fois au cours des quelques prédications. Ainsi, nous voyons dans 1 Timothée 2, 11-15 que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je Néhémie permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. L'âge de l'Église de Laodicée, livre des âges de l'Église chapitre 9344-1. Eh bien, montrez-moi un seul endroit, dans la Bible, où Dieu ait jamais établi une femme pour qu'elle prêche, ou qu'elle prenne autorité sur un homme. Et je vous présenterai mes excuses pour ce que j'ai dit. Vous, Néhémie, pouvez pas me mettre en défaut. J'ai raison. Parce que je m'en tiens à la parole. Et je reste dans la parole. Si vous étiez riche spirituellement, vous sauriez que c'est vrai. Hors de la parole, il n'y a pas de vérité. Paul a dit, je Néhémie permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. On Néhémie peut pas prendre une place dans un des 5 ministères d'Éphésiens 4 sans prendre autorité sur les hommes. Sœur, vous feriez mieux d'écouter cette parole. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu manifesté dans une vie remplie de l'Esprit qui vous a dit de prêcher, car l'Esprit et la parole sont un. Ils disent la même chose. Quelqu'un a fait erreur. Quelqu'un s'est laissé tromper. Réveillez-vous avant qu'il n'ait mis soit trop tard. Satan a trompé Ève, Votre mère? Maintenant, il trompe ses filles. Que Dieu vous vienne en aide. Maintenant, revoyons exactement ce qu'ont reçu ces hommes pour être des administrateurs. 15 Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit. Remarquez ces paroles que Jésus dit, à chacun selon ses capacités, et il partit. Ce sont les mêmes paroles que l'apôtre Pierre a utilisées dans 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Maintenant, il y a 10 hommes, représentant la fin du ministère, au temps où le royaume de Dieu doit s'établir sur la terre, et il a divisé ces 10 en 3 catégories, donna 3 montants. Nous pouvons associer ces 3 catégories aux 3 sortes des croyants dans l'Église. Ainsi, nous voyons ici que le Seigneur donne à ces hommes quelque chose de valeur. Au premier, il donne 5 talents. Dans la parabole découverte dans Luc, c'est à appeler des mines. En d'autres termes, c'est quelque chose de valeur et qui doit être investi. Remarquez dans Matthieu 25, 15. À l'un, il est à donner 5 talents. Maintenant, nous savons que 5 est le chiffre de la grâce. Et nous savons que grâce signifie faveur, mais nous devons comprendre quel genre de faveur, car il y a 5 types de faveur. 1. La faveur que nous accordons aux misérables, que nous appelons miséricorde. Et 2. La faveur que nous accordons aux pauvres que nous appelons pitié. Et 3. La faveur que nous accordons à ceux qui souffrent, que nous appelons compassion. 4. La faveur que nous accordons aux têtus, que nous appelons patience. Mais 5. La faveur que nous accordons aux indignes, que nous appelons grâce. Et nous savons qu'Abraham était le père de l'alliance de grâce avec Dieu. Et ce n'est pas surprenant que quand Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham, que la 5e lettre de l'alphabet hébraïque est, qui est le symbole pour le chiffre 5. A été inséré comme la 5e lettre de son nom, le changeant d'un do b3 r4 à 5m à un do b3 r4 à 5r 6 à 7m. Matthieu 25, 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Remarquez que dans cette parabole, nous avons 5 talents qui en produisent 10. Qui est la fin du cycle de la grâce. Et remarquez, le 5 plus 5, c'est la grâce plus grâce. Comme Zorobabel l'a dit, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Remarquez, la grâce est témoignée par la grâce. Ainsi, il a été donné un ministère de la grâce. Et c'est un ministère a été confirmé par la grâce. Zacharie 4, 6 et 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qu'aies-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Remarquez alors, que c'est le ministère qui va de 5 et ajoute 5, c'est la grâce ajoutant la grâce ou grâce grâce pour elle. C'est le ministère de la pierre de fête. La parole parle Esther la semence originale 18 mars 1962 et 108-1. Dieu fait sortir les élus de cette église pentecôtiste, cette hybride, l'attirant à l'extérieur, et terminant la parole. Et j'aimerais ajouter qu'il parle la fin de cela, lequel est la fin d'un cycle, et ensuite il dit, grâce grâce pour elle. 5 plus 5, vous donne 10 sesterces la fin de la parole. Et cela doit être si proche, au point que la parole elle-même avec cette parole. Là, descend la pierre de fête, criant, grâce, grâce, grâce étonnante. Le message de grâce 27 août 1961-56. Mais maintenant, conformément à la prophétie, la pierre de fête viendra. Et je veux que vous remarquiez que quand la pierre de fête vient, le prince qui proclamera le message, criera, grâce, grâce. Regardez, nous trouvons dans le livre de Pierre, où il nous est dit que la grâce et la paix, nous sont multipliés à travers la connaissance de Dieu. 2 Pierre 1, 2 que la grâce et la paix vous sont multipliés par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par conséquent, il doit y avoir un ministère de la parole qui produit la grâce dans les cœurs ou la compréhension pour le croyant. Parce que la grâce a été multipliée par la connaissance de Dieu et laquelle est une conjonction et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et 1 Pierre 1, il nous est dit qu'il nous viendra un ministère de grâce à la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 13 sesterces pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance de la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Remarquez, nous devons espérer pour la grâce qui doit nous être apportée à la révélation de Jésus-Christ. Ainsi, au temps de cette grande révélation de Christ, nous devons recevoir une dispensation spéciale de grâce. Et cette grâce doit être multipliée. Produisons grâce, grâce pour elle, au temps du ministère de la pierre de fête de Christ. Remarquez que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1, 3-5 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, qui comme un fertilisant, nous enrichissons le sol pour produire une moisson finale pour juste une semence. En lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Remarquez que c'est Esther lui qui le fait. Il l'a dit dans le livre des Actes 13, 41 voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous n'avez mis, croiriez pas si on vous la racontait. Remarquez, je ferai l'œuvre mais un homme vous l'annoncera. Alors, qui est-ce cet homme, et que représente-t-il? Un ministère de la grâce pour les gens, quoique ce sera Dieu, qui l'accomplira. Pourtant c'est-ce l'homme qui le déclarera. Quand toute chose, vous soyez enrichis par lui dans toutes les déclarations, ce mot déclaration, c'est-ce le logo, et dans toute la connaissance, et ce mot, sester, ginosko et sester le même mot qui parle du Seigneur, descendant en 7 heures avec puissance et connaissance. Et sester aussi le même mot, auquel Jésus se réfère à Philippe, quand il a parlé de la connaissance expérimentale de sa relation avec le Père. Et souvenez-vous, Jésus lui-même en expliquant la parabole de 2 semeurs, a dit, il vous a été donné de connaître, mais à eux, il n'est mis, il n'aura pas été donné de connaître, ni de comprendre. Et le mot donné est le mot grec écho. Alors, nous pouvons voir que ce ministère de grâce, qui a commencé avec 5 talents, a fait l'écho de 5 autres talents et cela a produit, grâce, grâce pour elle. Maintenant, en revenant à 1 Corinthiens 1, 6-7 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il n'ait mis vous manque aucun don, le mot don en grec, c'est le mot charisma et cela signifie donation. En d'autres termes, quand nous parlons d'un enfant qui aurait reçu un don, Cela ne veut pas dire qu'ils sont des athlètes, mais qu'ils sont mentalement doués. Pour être capables de comprendre ce que les autres parmi leurs pairs, Néhémie semble pas être capable de comprendre. Ainsi, cette grâce, c'est pour nous doter afin d'être capables de comprendre le dévoilement de Christ. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi, ce qui signifie que le témoignage ou le témoin de Christ était établi en vous, parmi vous. De sorte qu'il n'ait mis vous manque aucun don, pas de manque de compréhension, dans l'attente où vous êtes de la manifestation, les apocalypses ou dévoilement ou révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce que Pierre nous a dit qui devrait arriver. Il a dit, cette grâce nous préparera au dévoilement de Christ. Et il nous a dit d'affermir les lampes de notre esprit, ce qui signifie d'être prêt à bouger, car cela viendra rapidement et avec furie, comme dans un combat. Comme il dit, dans 2 Corinthiens 3, 18, cela va croître d'image en image et de gloire en gloire, de doxa en doxa, d'opinion en opinion, du jugement en jugement, de valeur en valeur. 8. Il vous affermira, ce qui signifie vous établira, car celui qui a commencé l'œuvre en vous, l'achèvera. Et il est ici pour le faire. Celui qui a donné la parole, est ici, pour la confirmer, comme frère Branham l'a dit dans sa prédication, la présence de Dieu non reconnue 18 juin 1964. Travaillant pour ce seul but, que vous reconnaissiez la présence de Jésus-Christ. Voyez, s'il est présent, alors, pourquoi, chaque chose serait réglée. Il a fait la parole. Il est ici pour la confirmer. Il prouve qu'il la confirmera. Il est juste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ainsi, nous voyons que lui-même est descendu en 7 heures pour nous confirmer sa parole. Et 8-10. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage, et, à n'aimer point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Dans sa prédication, le message de grâce 27 août 1961-65, frère Branham dit, cela exige de la simplicité de croire Dieu, pour faire que sa parole soit prononcée pour montrer que Jésus-Christ, Esther le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela nécessite qu'un cœur humble et dédié à Dieu apporte Jésus-Christ au temps présent. Amen. Si cela exigeait de la technologie, que pourrait le presbytérien, le méthodiste, le baptiste, le catholique, et ainsi de suite, nous n'aurions aucune chance, nous, pauvres gens illettrés. Mais cela n'exige pas de la connaissance. Non par la puissance ou par la sagesse, mais par mon esprit, dit Dieu, je dévoilerai ce mystère. Et il criera pour elle, grâce, grâce, avec des cris Esther ce qu'il en Esther aujourd'hui, la grâce étonnante de Dieu pour son peuple. Combien cela prend l'illettré, celui qui n'a pas appris, montre que Jésus est le même. Et encore dans sa prédication, le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu 28 novembre 1965 M262. Frère Branham dit, mais maintenant, nous arrivons à la tête, à la pierre de fait. La pierre de fait est criée, grâce, grâce. 263 et la pierre de fait crie quoi? Grâce, grâce. Ils sont passés de la mort et des credos à la parole vivante du Dieu vivant. Le seul plan que Dieu ait prévu pour son âge Esther celui-ci, ses fils dans l'âge de la parole sont vivifiés par l'esprit, comme une étincelle allumée par quelque chose afin de rendre cela vivant. Et maintenant, ils sont assis dans les lieux célestes au temps présent, vivant déjà, et ayant à leur portée chaque promesse de la parole. Alors, qu'est-ce que cela produit? Vous faites partie des gènes de Dieu, vous êtes une partie de la parole. Et il y a d'autres hommes qui sont une partie de la parole de Dieu, et vous êtes assis tous ensemble, manifestant le corps de Christ, tout entier, parce qu'il n'y a pas de levain au milieu de vous. Vous comprenez de quoi il parle, frère Brown? Pas de levain au milieu de vous, mais seulement la parole. Et vous êtes assis dans les lieux célestes, dans la porte où il a mis son nom, Jésus-Christ. Maintenant, souvenez-vous de la parabole du levain. Jésus a dit que le levain des pharisiens était leur fausse doctrine. Et ici, il dit qu'il n'y a pas de levain ou de fausse doctrine au milieu de ce groupe, qui a la pierre de fête de grâce. Grâce, le ministère de la pierre de fête. 264 S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, pas de fausse doctrine parmi vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela Néhémie pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. Ça Néhémie pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça Néhémie pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé. Il rassemblera l'Église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple, et accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Oh! Gloire! Cela a été promis dans Malachie 4, et dans le reste des Écritures. Où adorez-vous? Dans la maison de Dieu, assis au temps présent. Au suivant, remarquons qu'au deuxième homme, il a été donné deux talents ou mines d'argent. Nous savons que celui-ci exclut la différence, et dénote de celui qui est Esther souverain. Mais deux affirment qu'il y a une différence, et il y en a un autre, quand l'un affirme qu'il n'y en a pas un autre. C'est Esther pourquoi, frère Branham a dit que la seule différence entre le Père et le Fils, Esther que le Fils a un commencement. Maintenant, il n'est mis peut y avoir qu'une seule différence, mais il y a une différence, car nous avons affaire à deux, Dieu et son Fils. Et frère Branham l'a appelé un être double, ce qui signifie deux. Maintenant, le chiffre démontre qu'il y a une différence, et cela peut être pour le bien ou le mal acquis. Nous voyons deux dans la doctrine biblique des jumeaux, l'un Esther bon et l'autre Esther mauvais. Une chose peut être différente du mal acquis, et être bon, ou peut être différente du bon et être mauvais. Par conséquent, le chiffre 2 prend une double coloration, selon le contexte. Et c'est Esther important que vous vous en souvenez, selon le contexte en place. C'est Esther le premier chiffre, par lequel nous pouvons en diviser un autre, et ainsi dans toutes ses utilisations, nous pouvons tracer cette idée fondamentale de division ou de différence. Souvenez-vous, quand Jésus avait envoyé les disciples, ils se sont séparés et sont allés deux à deux. Et tous étaient bons. Excepté certainement, un groupe des six, qui avait un fruit mélangé, celui qui avait Judas, à l'intérieur. Les animaux aussi étaient sauvés dans l'arche, en venant deux à deux. Ainsi, tout cela dépend du contexte et du fruit que cela porte. Les deux peuvent être, quoique différents de caractère, pourtant l'un a un témoignage et une amitié. La communion étant deux gars dans un bateau, pourvu, ils ont un seul but et une seule pensée. Émos 3, deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenu? 1 Corinthiens 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage, et à n'aimer point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Matthieu 18:19-20. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi, nous voyons qu'à moins que les deux aient la même pensée, avec le même but, le chiffre deux, alors sera un témoin, mais à moins qu'ils aient la même pensée, et aient expérimenté la même connaissance, les deux montreront à plusieurs reprises une désunion ou une différence, ou une division. Là où l'homme est concerné, le chiffre deux témoigne de sa chute, car il révèle plus les différences qui impliquent l'opposition, l'inimitié et l'oppression. Luc 17:35. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Dans le livre de la Genèse, il nous est dit, quand le monde est tombé dans le chaos, qu'il avait submergé, nous voyons au premier chapitre au verset 2, la condition du monde était une ruine universelle et ténébreuse. Genèse 1, 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La deuxième chose enregistrée en relation avec la création, était l'introduction d'une deuxième chose, la lumière, et immédiatement, il y avait une différence et une division, car Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et le deuxième jour a aussi connu la division, car dans Genèse 1, si Dieu dit, qu'il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ainsi, nous voyons que le chiffre 2 montre les différences et la division. 17 De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagne à deux autres. Maintenant, ceci est important parce que les 2 + 2 = 4, qui est le chiffre du monde. Et quoique ces hommes sont allés d'une manière ou d'une autre avec leur ministère, ils ont fini par reproduire le monde et les soucis du monde dans leur ministère. Ils doublent son double, comme Dieu le fait à l'église prostituée de l'Apocalypse 18. Apocalypse 18:5-7. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant il s'est glorifié et plongé dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je n'ai mis suis point veuve, et je n'ai mis verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Maintenant, le chiffre 4 est fait de 3 et 1, 3 + 1, et cela dénote, ainsi, et marque ce qui suit après la perfection, 3, de Dieu, en ajoutant 1 à cela. Ainsi nous trouvons l'idée humaine et la voix humaine, et nous sommes avertis dans le livre de la Révélation que celui qui ajoute à la parole recevra les fléaux. C'est la tribulation. Ainsi, la révélation écrite commence par les paroles. Au commencement, Dieu, où il n'y a qu'une seule chose qui soit parfaite, et c'est Dieu, et la chose suivante qui soit mentionnée, est la création. Ainsi, au commencement, Dieu créa et par conséquent, la chose suivante mentionnée après la perfection est la création. Ainsi, le chiffre 4 fait toujours référence à tout ce qui est créé. C'est forcément le chiffre de la création, de l'homme dans sa relation avec le monde, tel que créé, ce qui estère le chiffre de l'homme dans son opposition et indépendance de Dieu. S'estère le nombre des choses, qui ont un commencement des choses, qui sont faites des choses matérielles, et importe lui-même. S'estère le nombre de l'exhaustivité du matériel. Ainsi, le chiffre du monde, et spécialement le chiffre de la ville. Le quatrième jour, a vu le matériel de la création être terminé, car au cinquième et sixième jour, c'était seulement le remplissage de la création par des créatures vivantes. Le soleil, la lune, et les étoiles ont complété le travail, et ils étaient là pour éclairer la terre, qui venait d'être créée, et de régner dessus le jour et la nuit. Genèse 1, 14, moins 49. 4 Esther le chiffre de grands éléments, terre, air, feu et eau. 4 sont les régions de la terre, nord, sud, Esther et ouest. 4 sont les divisions du jour, matin, midi, soir et nuit. 4 sont les saisons de l'année, été, automne, printemps et hiver. 4 sont les grandes variations des phases lunaires, pleine, demi-quartier. Pas de lune. Dans sa prédication, la semence n'hérita pas avec la balle. 29 avril 1965 B135, frère Branham dit, maintenant, rappelez-vous, selon Apocalypse, le mystère entier du livre Esther scellé de sept sceaux, que les réformateurs n'avaient pas eu l'occasion d'apporter, les quatre étapes de la réforme, les quatre étapes des quatre bêtes, qui sont allées à la rencontre des quatre puissances du monde. Questions et réponses sur les sceaux. 24 mars 1963 485-1178. Vous rappelez-vous, du chiffre de l'Antichrist? 4. Voyez? Ainsi, nous voyons que ces ministres, à qui il a été remis deux, ont pris la mauvaise voie et ont doublé les deux, pour que cela devienne 4, le chiffre de l'Antichrist, ou le chiffre du monde, montrant que leur ministère, quoiqu'ayant reçu la charge d'une administration et reçu la confiance, avec la chose valeureuse remise aux autres, ont produit une église mondaine. Ce sont des soi-disant croyants, qui utilisent l'évangile pour un gain. Maintenant, j'aimerais avoir plus de temps, pour aborder ce chiffre 2 et vous montrer plus des faits de ce ministère, mais nous devons avancer vers le dernier. Matthieu 25, 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Remarquez, ce que fit cet homme. Il n'y voulait pas même publiquement montrer ce qui lui avait été donné. C'est-à-dire l'incroyant, qui cache la parole aux gens, comme Jésus l'a dit, ils n'entreront pas, ni n'y laisseront les autres à entrer. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Remarquez, ce que l'apôtre Paul dit au sujet de ces hommes. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit dans la parabole. Ce que sera la fin de ces hommes, que nous verrons, quand nous y arriverons bientôt. Ainsi, nous voyons que la nature de ces hommes sont identifiées par leurs caractéristiques. Ce sont des hommes qui ont fait une certaine chose et ce qu'ils ont fait reflète ce qu'ils sont. Et la parabole nous montre trois sortes de croyants, juste au milieu de nous, dans le clergé. Le croyant Esther, celui qui participe dans le ministère de la grâce et reflète en retour le ministère de grâce. Esther le croyant. Ce soi-disant croyant Esther, celui qui prend les deux et peut aller dans tout le sens avec, mais choisit d'aller sur la mauvaise voie, et diffère et varie et finit par produire un effort mondain, et une église mondaine et en tire un gain. Et celui qui le cache, est-ce simplement un incroyant? C'est-ce tout. Maintenant, continuons avec cette parabole et le Seigneur voulant, nous allons essayer de conclure. Luc 19, 14-15. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire, nous n'y voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, ainsi, s'il était là et qu'ensuite il s'en était allé et avait reçu son royaume et que maintenant, il retourne, cela parle de la seconde venue. Un type parfait de Christ. Il fit appeler auprès de lui les serviteurs. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ainsi, en concluant, regardons aux récompenses qui seront accordées à chacun de ces trois catégories des ministres. Matthieu 25, 15, 19. Auquel il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Maintenant, considérons en premier lieu le ministre croyant. 20-21. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, qu'est-ce que la joie du Seigneur? David a dit, Psaume 16, 11, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Et l'apôtre Paul nous a enseigné, 1 Thessaloniciens 2, 19, qu'est-ce? En effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Et ce mot, avènement est-ce le mot parousia. C'est-ce la joie dans laquelle nous entrons. Sa présence. Et pourquoi y a-t-il tant de joie pour nous à sa parousie? Jude nous dit que c'est-ce parce qu'il est-ce ici pour nous garder de la chute. Jude 1, 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, sa doxa ou sa pensée, irrépréhensible et dans l'allégresse. Maintenant dans le livre de Luc, nous lisons aussi pour ce croyant 16 le premier 20, et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Remarquez, aussi que les 10 signifient que s'estère tout ce qui a été gagné et que s'estère la fin du cycle et comme cela traite avec le ministère, s'estère la fin du ministère au temps de l'établissement du royaume. 17 Il lui dit, s'estère bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Nous voyons encore qu'il sera établi sur les 10 villes, qui montre encore qu'il n'y aura plus de règne semblable ou d'administration sur ces villes. Maintenant, regardez le ministère qui a doublé, le double. Maintenant, rappelez-vous, le chiffre 2 montre qu'il doit y avoir une différence et que cela peut être pour le bien ou pour le mal acquis. Nous voyons 2. Dans la doctrine biblique sur les jumeaux, l'un est bon et l'autre est mauvais. Une chose peut être différente du mal acquis et être bon, ou une chose peut être différente du bien et être mauvaise. Ainsi, le chiffre 2 prend une double coloration selon le contexte. Et c'est important que vous vous en souvenez, selon le contexte en présence. C'est le premier chiffre à partir duquel on peut en diviser un autre. Et ainsi, nous devons tracer dans tous ces usages cette idée fondamentale de la division ou de différence. Ce deux peut être, quoique différent en caractère, pourtant comme un témoignage et amitié. Rappelez-vous quand Jésus envoya ses disciples. Ils se sont séparés et sont allés deux à deux. Et tous étaient bons. Excepté, bien sûr, l'un des groupes parmi les six, qui avait un fruit mélangé, parce qu'il avait Judas à l'intérieur. Maintenant, ce que nous découvrons dans le ministère de deux Esther que, dans l'un des paraboles, dans une parabole, ils ont produit quatre, qui Esther le chiffre du monde, et pourtant dans l'autre parabole, il n'y a personne à qui, on avait remis deux, car tous les dix avaient reçu chacun, une seule mine, ou la même mesure de la parole. Ainsi, nous en voyons une, mentionnée dans cette parabole, qui a retourné cinq, qui Esther aussi la mesure de la foi, et ce n'Esther pas différent de la première, excepté que la première avait produit une double portion de grâce, par rapport à l'autre. Une, produisit cinq. Deux fois, ce qui donne dix. Finissons l'âge des messages, ou le cycle du ministère de l'Église, et ensuite, celle qui suivit, produisit cinq. Ce qui Esther aussi la grâce, je crois que ça pourrait être le quintuple au ministère, parce qu'ils ont reproduit le quintuple de ce qui leur a été donné. 18 le second vin. Et dit, Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur cinq villes. Maintenant, le dernier groupe, Esther celui des incroyants, qui connaissaient mieux mais ont volontairement caché la doctrine aux gens, afin qu'elle n'ait mis, produise par la grâce pour eux. 24-30 Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est cher à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est cher à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a semé Esther écho, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ainsi, il Esther allait dans la tribulation. Maintenant, regardons à Luc 19, 20 un autre 20. Et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge. Maintenant, le mot linge a été traduit d'un mot qui signifie un chiffon de nez. Maintenant, regardez à cette chose qui leur avait été donnée, qui était d'une grande valeur, mais regardez de quelle manière cet homme l'a gardée. Et l'a gardée d'une manière distinguée. 21-28 Car j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tu les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Inclinons nos têtes pour la prière. Cher Père, nous avons essayé d'apporter la parole aux gens aujourd'hui, de manière à leur montrer que tu es toujours vivant au milieu de nous, et que ta parole est une parole vivante, et que c'est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, nous avons considéré beaucoup des choses aujourd'hui, c'est presque submergent, et s'il y a quelque chose ou une partie que je n'ai pas apporté correctement, ou que je n'ai mis les pas apportés, de la manière que tu l'aurais voulu, alors je te demande de regarder par-dessus et regarder à mes intentions par ton aimable grâce, et aide-nous Père à voir ton peuple se préparant pour le départ proche des enfants élus. Je t'aime Père et j'aime ton Fils, Jésus-Christ, mon frère aîné, que tu as envoyé sur cette terre pour devenir mon sacrifice. Je pleure Père, quand je pense à la mort brutale et ensanglantée qu'il a souffert volontairement à cause de moi, ma famille et tes enfants ici et ceux qui se sont réunis avec nous, au travers de cette parole révélée, partout à travers le monde. Sois avec nous durant cette semaine, et continue à nous bénir avec ta parole vivante, car nous le demandons au nom de Jésus, ton Fils obéissant et fidèle. Amen. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr. C'est Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.